Eh bien, chers frères, réjouissons-nous effectivement, car le Seigneur vient. Et aujourd'hui, l'Église nous le fait voir, ce Seigneur qui vient dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie qui est ici préfiguré, les premiers chrétiens ne s'y sont pas trompés. De nombreux sarcophages des premiers siècles révèlent cette adéquation qu'il y a entre cette préfiguration, cette multiplication des pains qui est la première, car il y en a deux dans l'Évangile, et l'Eucharistie. Alors donc, je vous propose de voir cela en deux points. Tout d'abord, l'Eucharistie préfigurée, et d'autre part, l'Église annoncée dans l'Eucharistie. Tout d'abord, l'Église préfigurée. Le Seigneur, en faisant ce miracle, mentionne tout ce qu'il faut pour que nous y reconnaissions la future célébration de la messe. Il prit le pain, il rendit grâce et le distribua. C'est exactement la structure fondamentale de l'offertoire, de l'Eucharistie et de la communion. C'est ici évidemment préfiguré l'Eucharistie qu'il va bientôt établir. Le Seigneur, en bon pédagogue, a plusieurs fois établi les termes des signes qu'il va produire afin que nous puissions vraiment comprendre. Et ici, les deux signes qui sont pris, c'est 5 pains et 2 poissons. Je viendrai ensuite au personnage en parlant de l'Église. 5 pains et 2 poissons, ce sont 2 signes relativement clairs pour nous. D'abord, les 5 pains, puis les 2 poissons. 5 pains, c'est-à-dire le Seigneur, comme au désert, là où il vient d'emmener de nouveau cette foule, comme le Seigneur avait nourri par la manne au désert les Hébreux, c'est dans le désert qu'il va leur donner du pain. Ce pain qui est le pain de vie, c'est le discours qui vient juste après, nous sommes au début du chapitre 6 de Saint Jean. Il pose d'abord le signe et ensuite il donne la parole qui va lui donner son sens. Pourquoi 5 pains? C'est assez simple à voir. Les pères de l'Église l'ont compris, peut-être avez-vous déjà fait le lien. Les 5 pains sont en rapport avec les 5 plaies du Christ. Vous le savez, l'Eucharistie n'est pas le partage d'un repas fraternel, n'est pas le partage simplement du pain. Ce n'est que le substrat, le signe d'un partage fraternel du pain qui rend présent la croix du Christ, évidemment. C'est pourquoi, à la fin de la prière eucharistique, alors que le corps et le sang du Seigneur se trouvent sur l'autel, que ce pain et ce vin sont maintenant le corps et le sang du Seigneur, le prêtre prend l'hostie, la place au-dessus du sang du Christ, et trace 5 signes de croix en souvenir des 5 plaies du Christ. Oui, mes bien chers frères, nous ne sommes pas protestants. Nous ne sommes pas en train de réaliser le souvenir d'un repas que le Seigneur a fait, et par une certaine fidélité, ce qui est déjà admirable sous un angle, nous refaisons ce signe. Non, nous nous basons sur cette fidélité, nous refaisons ce signe, bien certain que le signe, ce n'est pas le signe. Le signe, c'est ce qu'il montre. Et oui, quand je vous donne un signe, ce n'est pas juste pour le plaisir de vous donner un signe, c'est pour le plaisir de vous amener là où ce signe doit vous mener. Le signe n'est pas la chose, le signe est le moyen de la chose que je montre. Et ici, le pain de vie qui vous est montré est le moyen par lequel le Christ rend présent lui-même son corps et son sang. Le signe n'est pas la chose, le signe est le moyen de la chose. Le sacrement que nous célébrons est le rassemblement de ce signe pour produire la chose. C'est le Christ qui agit, nous produisons le signe et Dieu produit la chose, c'est-à-dire sa propre présence. Ces 5 pains sur lesquels le Seigneur va fonder son Église sont évidemment la préfiguration du pain céleste que vous allez recevoir ici tout à l'heure à la Sainte Table. Mais il y a encore les 2 poissons. Pourquoi ces 2 poissons? Pour 2 raisons. D'abord parce que les chrétiens l'ont bien vu, il se trouve qu'en grec, ictus, les premières lettres de ce mot qui signifie le poisson, sont l'anagramme de Jésus. Ictus, Jesus Christus, Theou Ouios Soter, ça fait plus chic en grec, mais ça veut dire Jésus-Christ, le Fils du Dieu Sauveur. Ce poisson, évidemment, c'est lui toujours, c'est le signe de sa propre présence. Alors pourquoi finalement prend-il du pain et du poisson? Eh bien, tout simplement, avez-vous remarqué que, après avoir partagé les pains et les poissons, il ne reste plus que du pain. C'est-à-dire que le Christ s'est effacé devant le pain qui nous est donné, devant l'apparence du pain qui nous reste, devant celui que nous adorons encore au tabernacle. Le Christ est passé, sa présence est restée parmi nous. Voilà pourquoi il reste 12 corbeilles, comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres qui fondent l'Église aujourd'hui, les 12 colonnes sur lesquelles elle veut s'appuyer. Ce ne sont pas des colonnes humaines, c'est une colonne de sa propre présence, les 12 paniers de la présence du corps du Christ. Voilà pour les signes qui sont ici posés, l'Eucharistie est la colonne sur laquelle l'Église est posée, et c'est mon deuxième point. L'Église, en effet, est annoncée dans ce miracle de la multiplication des pains. Vous l'avez peut-être remarqué, le Christ s'en va au désert, comme il vient de nous convoquer au désert, comme il vient de nous amener à lui, et il s'assoit au milieu de ses disciples. Mais voilà qu'une foule nombreuse se rassemble autour de lui. Et nous dit l'Écriture, se rassemblent parce qu'ils avaient vu des miracles faits sur les malades. Oui, c'est parce que nous avons besoin d'être guéris, c'est parce que nous avons besoin d'entrer dans l'Église pour être purifiés que le premier des sacrements est celui qui pardonne. Le premier des sacrements, le baptême, pardonne tous nos péchés et même nous pardonne le péché originel que nous portons dans notre chair. Oui, ce rassemblement de l'Église exige qu'on aille vers le Christ. Il ne suffit pas d'en avoir entendu parler, il ne suffit pas d'avoir une idée bonne sur les valeurs chrétiennes. Non, ce n'est pas ça qui fait de vous des membres de l'Église. Ce qui fait de vous des membres de l'Église, c'est que vous êtes des pécheurs pardonnés et que vous venez au Christ, notamment en venant le dimanche à la messe. Oui, à la messe, le rassemblement est complet, car alors le Christ vous invite non plus à le servir, mais à vous asseoir. Il reste bien quelques servants qui sont debout, pas pendant mon sermon, mais pendant la messe, qui sont debout comme ce petit enfant qui doit apporter le pain et le poisson. Mais à vous, il est donné de vous asseoir, car en vous assoyant, vous acquérez la dignité de membre de l'Église. Alors cette Église, ce n'est pas simplement ce rassemblement, car il ne suffirait pas de faire un grand rassemblement, de faire un Woodstock chrétien pour que ça soit l'Église. L'Église, c'est le corps mystique du Christ, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Voilà pourquoi ce corps mystique se fonde à partir du Christ lui-même, qui est son corps. Son propre corps aujourd'hui, ce corps que les apôtres ont vu en chair et en os se promener parmi eux, ce corps qui, durant 33 ans après son incarnation, était sur terre, ce même corps du Christ est aujourd'hui celui qui nous rassemble. C'est l'Église du Christ qui se transporte dans l'histoire. Jésus-Christ répandu et communiqué, ce n'est pas de moi, c'est de Bossuet, c'est dire si c'est beau. Et cette Église répandue dans le monde, elle l'est à la fois sur terre, elle l'est à la fois au ciel, elle l'est à la fois dans cet état intermédiaire que l'on dit le purgatoire. L'Église du Christ répandue et communiquée, c'est vous qui en êtes les membres. Pour appartenir au Christ, il faut par le baptême y entrer, et ensuite se laisser continuellement purifier et vivifier pour être vraiment des chrétiens. Être du Christ, Christianus, c'est pas seulement avoir une carte, une appartenance, c'est se laisser transfigurer, se laisser configurer au Christ lui-même. L'Église de la terre, l'Église militante, l'Église du ciel, l'Église triomphante, l'Église souffrante, celle du purgatoire qui attend de voir son Seigneur, c'est tout ça l'Église dans laquelle vous êtes plongés. En communiant dans un instant au corps réellement présent du Christ, vous allez revivifier une nouvelle fois cette présence, non pas la présence du Christ à vous, mais votre propre présence au Christ. C'est le Christ, c'est vous qui prenez ce pain en vous, c'est le Christ qui va vous intégrer à lui, qui une fois de plus va vous unir comme un ciment fort à son corps, pour que vous viviez éternellement, c'est-à-dire maintenant sur terre et demain au paradis. Voilà cette Jérusalem céleste où nous mène l'Église, car notre but n'est pas d'établir des sociétés in secula seculorum, même si les sociétés sont pour nous le moyen de l'établissement du règne du Christ. Notre but, c'est le règne éternel de Dieu, la Jérusalem d'en haut. C'est dans cet esprit que l'Église vous invite à vous réjouir, Jérusalem, car nous sommes les enfants de l'Église, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les enfants d'Israël, ce verus Israël qu'est l'Église. Oui, c'est pour cela qu'on appelle ce dimanche le dimanche de la joie, car lorsque nous entrerons dans cette Jérusalem céleste, elle sera pavée de fleurs, et la fleur des fleurs qu'est la rose. Cette rose que symboliquement le pape aujourd'hui, cette rose d'or qu'il bénit et qu'il va ensuite porter triomphalement jusqu'à la faire porter, l'offrir à un prince ou une princesse chrétienne qui établisse dès maintenant le règne du Christ sur terre. Prions pour que cette rose nous soit un jour destinée, que cette rose d'or soit le signe dans notre pays, la France, de la venue du Christ lui-même, de cette Jérusalem céleste pavée de fleurs que nous espérons pour toujours. Ainsi soit-il.